Les meeples sont de sortie. C'est la pause à midi. C'est ludique, c'est ludique. Les jeux, c'est magique.
Bonjour à tous et bienvenue dans C'est Ludique, amis joueurs, amis joueuses. On est ensemble pendant à peu près 30 minutes et on va parler jeux de société. Et c'est une petite semaine qui commence puisque ça s'arrête mercredi. Mais vous allez avoir de belles surprises. Allez, d'ici quelques instants, on va retrouver Morgane pour soirée jeu. Et puis moi, je vais vous présenter un petit jeu d'ambiance aujourd'hui, tout petit, mais vous allez voir. Il est plutôt bon, c'est Ludit, ça commence tout de suite. Et au menu donc aujourd'hui, c'est One Round, un jeu de Tobias Tézard pour 2 à plus de 10 joueurs à partir de 8 ans et édité par Schmitt. Alors dans ce jeu coopératif d'association d'idées, vous devez combler les trous dans le cercle de mots pour l'emporter. Au niveau de la mise en place, vous posez 3 cartes de départ, numérotées 0-100, 33 et 66, en formant donc un cercle. Sur ces trois cartes, vous allez noter trois mots, ce que vous voulez. Alors, il y a des exemples dans le livret, mais vous pouvez prendre n'importe quel exemple. Par exemple, sur la carte 0-100, je vais noter chocolat. Sur la carte 33, je vais noter Japon. Sur la carte 66, je vais noter avion. Vous prenez ensuite 12 cartes numéro au hasard. Vous voilà, vous êtes prêt à jouer. Mais alors, comment on joue à One Round? Eh bien, à votre tour, vous allez piocher une carte numéro. En 20 secondes, vous devez trouver un indice se rapportant aux deux autres mots adjacents à l'intervalle de son numéro. Alors par exemple, j'ai le numéro 22. Je dois mettre quelque chose qui correspond au numéro 0 et 33 dans cet intervalle-là. Alors par exemple, moi je vais écrire tablette. Pourquoi tablette? Parce que tablette de chocolat, et puis au Japon, ils fabriquent des tablettes, des tablettes tactiles, bien sûr. Alors une fois que j'ai écrit le mot, les autres joueurs ont maintenant 20 secondes pour trouver le bon intervalle, à savoir entre 0 et 33. Une fois la décision prise, ils placent donc le sablier dans l'intervalle choisi. Si c'est le bon intervalle, la partie continue avec un autre joueur et on refait la même chose. On va repiocher une nouvelle carte, sinon on place quand même le mot, mais on va perdre une vie. Eh oui, quand on perd 3 vies, c'est la mort subite. Il faudra se mettre d'accord pour trouver le prochain intervalle du mot en 20 secondes. Les joueurs gagnent s'ils sont parvenus à remplir les intervalles avec leurs 12 cartes. Oui, il y a 12 cartes, donc vous allez voir, plus on va continuer à jouer, plus ça va être compliqué de trouver des mots. Et les joueurs perdent s'ils ont perdu leurs 3 jetons vie et qu'ils échouent en mort subite. Alors, ce que j'en pense de One Room, la première chose, quand j'ai vu le jeu, je me suis dit « encore un jeu d'association d'idées ». Et rarement, ces nouveaux jeux arrivent à atteindre mes deux préférés, à savoir Just One et Perfect World. Eh bien, One Round arrive à leur niveau, alors peut-être un petit peu en dessous, mais ça marche en tout cas super bien. J'ai pu le découvrir à Cannes et on en fait de nombreuses parties. Il faut d'ailleurs y jouer pour comprendre les sensations de ce jeu. Voilà, ça s'appelle donc One Round et ça vient de sortir, enfin c'est sorti il y a quelques mois chez Schmitt. Allez, on se retrouve d'ici quelques instants avec Morgan pour Soirée Jeu.
C'est la pause déjeuner. C'est ludique, les soirées jeux, c'est magique.
Et comme tous les lundis, on retrouve Morgan pour Soirée Jeu. Salut Morgan.
Salut.
Ça va bien?
Oui, et toi?
Bah oui, très bien. T'as passé un bon week-end?
Ouais, ça fait du bien.
Est-ce que t'as fait le pont, toi?
Oui, j'ai fait le pont.
Ouais. Eh ben voilà, tu vois, parce qu'Anne-Gaëlle n'était pas contente parce qu'elle faisait pas le pont. Eh ben toi, t'as fait le pont.
Et puis là, je l'ai fait tous, là. Donc.
Eh ben voilà, comme moi, bienvenue. On va faire un long viaduc.
Ça va être. Anne-Gaëlle, elle sort de vacances aussi.
Mais c'est vrai, j'ai oublié de le dire. Effectivement, mais c'est vrai. C'est vrai qu'elle est instite, elle est tout le temps en vacances. Non, je dis pas ça, attention. Non, j'ai rien dit pour les instites. Non, vous avez beaucoup de travail.
Elle va nous détester.
Vous avez beaucoup de travail, surtout le soir. Il faut corriger les copies et tout. On n'arrête jamais. Allez, on se rattrape comme on peut. Ça va être le moment, Morgane, de parler de soirée jeux. Les jeux que tu as fait cette semaine, tu as eu le temps du coup de faire beaucoup de jeux, je suppose, avec tous ces
ouais,
coups.
J'ai pas mal joué, ouais. Après, là, on va partir sur trois styles de jeux complètement différents, du coup.
D'accord.
Parce qu'on a un jeu solo, un jeu de plateau et un jeu d'ambiance.
Ok.
Voilà, c'est un petit triplé parfait. Donc, on commence avec le jeu solo, c'est Conservas, qui vient de sortir chez Matago. C'est un jeu de Scott Almes qui est illustré par Jorge Tabanera Redondo. Et en fait, dans ce jeu, on possède une entreprise de boîtes de conserve. Alors, ça, on voit pas du rêve, hein, comme quoi.
Allez, les sardines, les macros, on y va, c'est parti, poisson.
C'est ça. Donc du coup, on a notre petite entreprise sur la côte espagnole et en fait, nos conserves, elles sont réputées, donc on doit faire en sorte que ça se poursuive depuis la gestion des bateaux qui partent en mer pêcher jusqu'à la vente des conserves sur le marché. Donc on se retrouve en fait dans une campagne de 12 scénarios qui représente une année entière. Et chaque mois, on va avoir des objectifs différents. Et ça sera pas toujours le fait d'avoir le plus d'argent. On peut aussi, par exemple, avoir l'objectif de ne pas faire trop de pêche non plus. En gros, on fait en sorte d'avoir un équilibre qui est durable entre la mer et les mises en boîte.
Mm-hmm.
Donc le thème est assez poussé. Hein. J'avoue que...
Ah non, mais c'est vrai que c'est rare ce type de
thème. Voilà, c'est original
hein,
pour le coup. Ça, on peut pas leur reprocher. Donc du coup, on part dans notre mission avec un seul bateau, peu d'argent. Et surtout, on va avoir un sac en fait qui représente le contenu qu'on va pouvoir aller pêcher. Donc dans ce sac, on va avoir des petits jetons poissons, mais on aura aussi des jetons d'eau. Donc jusque-là, c'est normal. Hein, quand tu prends ton sac dans l'eau, t'as toujours de l'eau qui remonte avec.
Ah bah oui, bien sûr. Oui.
Voilà. Et à chaque fois qu'on ira à la pêche, en fait, on va récupérer des jetons qu'on placera soit sur un de nos bateaux, soit on les laissera à la mer pour qu'ils puissent se reproduire et ainsi qu'on ait plus de jetons dans notre sac au tour suivant et plus de choix du coup. Mais là aussi, il faudrait être prudent parce que y a certains objectifs qui vont te demander qu'il reste pas plus d'un certain nombre de pions dans ton sac à la fin de la partie.
Ok.
Voilà, donc après, on a un livret calendrier qui est hyper bien fait, qui permet de savoir ce que la vente des boîtes de conserve va nous rapporter. On a un petit système évolutif. C'est clairement notre carnet de bord, en fait, donc ça enrichit un peu plus l'expérience. T'as un carnet à spirale avec tous les mois dessus qui sont représentés. Et on aura aussi des cartes d'amélioration qui seront à acheter, mais qu'il faudra pas non plus négliger, parce que pour certains scénarios, t'en as vraiment besoin si tu veux essayer de les remporter. Au final, on a vraiment un système de backbuilding qui est assez surprenant. Pas toujours facile à gagner, mais qui est hyper agréable à jouer. En fait, au bout de quelques parties, tu peux avoir un peu l'impression de rouler sur le jeu, d'avoir compris le fait, comment tu gagnes en fait, et du coup tu enchaînes. Le trouver peut-être un peu trop simple, mais en le prenant pour ce qu'il est, on est vraiment sur un jeu light et qui sera bien pour ceux qui veulent du jeu solo sans être dans de l'expert pour autant, parce que souvent les jeux solo c'est des jeux bien plus poussés. Enfin, je pense à Legacy of Shu qui est un jeu expert au final, et du coup voilà, c'est vrai que là on retrouve quelque chose de plus light.
Et là, c'est vraiment un jeu uniquement solo. Hein.
Ah ouais, c'est pur solo là.
D'accord.
C'est marqué 1 sur la boîte, vraiment du pur solo.
Est-ce que c'est une boîte de sardines? Non.
Non, alors par contre, le dos des cartes, c'est illustré façon boîte de sardines.
Ah bah voilà, tu vois.
Ils ont poussé le truc. Mon seul petit regret du coup, c'est qu'il n'y ait pas assez de choses qui varient d'un mois à l'autre. Mais voilà, honnêtement, pour le prix et le jeu en lui-même, c'est quand même une proposition qui est ludique, qui est sympa. T'as 12 parties assurées, tu peux aussi en faire plus si tu veux rejouer avec plus de difficultés. Il y a l'auteur du jeu qui avait entendu justement les personnes qui disaient que c'était trop simple.
D'accord.
Et il a proposé sur BGG en fait des variantes plus difficiles pour pousser le truc. Donc voilà, tu sais que l'expérience, tu peux encore la pousser un peu plus loin. Pour le coup, on a souvent des modes solo dans les jeux, mais on a rarement des purs jeux solo, même s'il en existe quelques-uns. Là, on n'y perd pas en intérêt pour autant et on se prend au jeu de pêcher les bons poissons pour vendre nos conserves ensuite. Parce qu'au final, tu peux avoir l'impression qu'il y a un thème complètement plaqué, mais on a quand même un thème qui est osé, un jeu qui évoque en plus le côté environnemental et la surpêche qui existe quand même réellement dans le monde aujourd'hui. Et t'as un petit côté éthique au jeu en fait qui est à réfléchir ce que tu vas garder, ce que tu vas relâcher en mer. Bref, pour le coup, moi, l'expérience, elle a été agréable. J'ai encore quelques mois à réaliser dans ma campagne, mais les premières parties, c'est un bon souvenir.
Très bien. Ouais. Bon, et tu manges quoi ce midi, des sardines, non?
Non, je suis pas très poisson, moi, en plus, donc...
Ah d'accord, pas poisson.
Dans les jeux, ça me dérange pas, mais...
Mais pas de sardines, pas de maquereau, rien de tout ça, quoi. Hein,
non,
pas
rien de tout ça, ouais.
Du thon en boîte, quand même
Ouais, le thon, oui, à la rigueur. Mais tout ce qui est fruits de mer, j'ai beau venir de la mer...
À la rigueur. Ok. Autre thème, rien à voir avec les sardines.
Dans un tout autre univers, puisqu'on part avec Couleurs de Paris.
Ah oui.
Du coup, qui est un jeu de Nicolas de Oliveira, qui a été illustré par Fabrice Weiss et qui est sorti en 2019 chez Super Meeple. Et notre but dans celui-là, c'est de devenir le meilleur peintre du grand atelier. Donc pour ça, on va devoir récupérer des pigments de couleurs, donc c'est des petits cubes, pour peindre les différents tableaux qui seront à notre disposition. On va commencer la partie avec trois assistants, trois petits meeples qu'on va aller poser chacun notre tour au centre du plateau principal. Donc en fait, le plateau principal, t'as une roue et t'as plusieurs actions différentes dessus. Donc un meeple assistant, il va pouvoir aller récupérer des pigments de couleurs primaires, il va pouvoir améliorer ses outils de peinture, créer des couleurs secondaires, peindre, réserver des tableaux et bien plus encore. Sauf que en fait, ces cases sont pour la plupart limitées en nombre de meeples. Donc il va falloir optimiser son placement pour prendre les actions dont on aurait besoin avant les autres. Donc une fois que tous les assistants sont en place, on va résoudre chacun notre tour une action d'un de nos meeples, que ce soit pour récupérer les pigments, réaliser les mélanges, etc. On va se servir de notre niveau d'outils sur notre plateau personnel. Et en fait, ces niveaux-là, il va falloir les faire évoluer si on veut être plus efficace. Et surtout qu'en avançant sur ces pistes d'outils, on va pouvoir, au niveau 6, je crois, de chacune d'entre elles, récupérer un nouvel assistant. Et donc, potentiellement, faire plus d'actions pendant notre tour, puisqu'on peut avoir jusqu'à 6 meeples assistants pendant la partie.
D'accord.
Pour choisir un tableau, on va le récupérer. Il y a des petits chevalets qui sont hyper bien foutus. En plus, j'adore le matériel de ce jeu. Donc, tu as des petits chevalets avec les tableaux dessus. Et en fait, les tableaux, ils proposent une configuration de cubes. Donc, tu as une zone de 3 ou 4 par 4, je crois, qu'il faudra peindre pour valider le tableau, notre peinture. Donc, à la fin de chaque tour, la roue centrale, elle va tourner. Elle va bloquer certaines actions aussi, notamment. Et la fin de partie, elle sera annoncée quand un joueur aura réalisé 2 peintures complètes. Je sais que j'avais craqué sur Couleur de Paris quand je l'avais découvert à sa sortie. Et là, tu vois, il rejouait récemment après plusieurs années sans y jouer. C'était une preuve qu'il a très bien vieilli et qu'il est toujours hyper efficace parce qu'il a convaincu tout le monde.
Mais ouais, ça marche très bien, Couleur de Paris. C'est très bon. Hein.
Ouais, c'est vraiment hyper agréable. En fait, dans ce jeu, t'as tout qui est subtil. Donc, c'est coloré, c'est agréable à jouer. Tu manipules tes petits pigments de couleur pour en faire quelque chose. Tu gères cette roue qui tourne et qui, avec tes petits meeple assistants aussi. Voilà, on a vraiment un côté malin en fait entre justement la production de pigments, le fait d'améliorer aussi ses outils de peinture pour être plus efficace. Du coup, t'as vraiment un côté optimisation qui sera forcément de mise pour voir les actions à long terme et planifier plus facilement nos tours. Côté rejouabilité, il n'y a rien à redire, on a vraiment un bon nombre de tableaux plus ou moins complexes à réaliser et surtout des variantes puisqu'on a les peintres et les cartes bonus. Donc les peintres, ils vont nous apporter des pouvoirs spéciaux et uniques à chaque joueur et les cartes bonus, ça sera activable grâce aux cubes blancs qui sont des petits cubes jokers. C'est 2 variantes que je conseille vraiment d'y jouer directement avec si on peut parce qu'elles sont pas compliquées à comprendre et elles rajoutent quand même... quelque chose en plus. En fait, quand il est sorti, je sais pas toi, mais moi, ça a mis un coup de frais sur les jeux de poste d'ouvrier,
oui.
Avec justement cette roue centrale et ces petits meeples qui vont déterminer les actions. Donc, t'as vraiment tout qui est réuni. T'as un thème qui est hyper agréable, t'as un jeu fluide qui est hyper dynamique, accessible. Et même 6 ans après, il me fait toujours le même ressenti. Donc, c'est plutôt cool. C'est assez rare et du coup, c'est cool.
Très bien, Couleur de Paris. Alors, je sais pas si on le trouve encore.
Il est encore trouvable. Là, j'ai vérifié, les 3 jeux sont trouvables.
D'accord, ok. Et le dernier,
du coup, c'est un jeu d'ambiance. C'est un jeu que j'ai découvert il y a très peu de temps avec Creativity. Donc, c'est un jeu sorti en 2014. C'est pas tout récent non plus. De Marc Ribeiro chez Yellow. Et du coup, je te confirme qu'il est encore trouvable. Je suis allée vérifier aussi.
D'accord.
Oui, on le trouve aussi facilement sur Internet. Dans Creativity, en fait, on joue par équipe. Et à chaque tour, il y a un membre d'une équipe qui aura 5 mots à faire deviner aux autres membres de son équipe. Le tout en un temps limité par un sablier. Donc jusque-là, t'as rien de surprenant, sauf que la subtilité, elle est pour justement faire deviner le mot. Parce que pour chaque mot, le joueur qui va faire deviner aura le choix entre 9 façons différentes de le faire deviner. Et selon celle qu'il choisit, qui sera plus ou moins facile à réaliser, il va marquer plus ou moins de points si son équipe trouve. Donc pour faire deviner un mot, on va avoir la possibilité de dessiner, d'utiliser de la pâte à modeler qui est dans le jeu, de mimer, de fredonner, d'utiliser des petits fils de faire deviner en donnant 1 ou 2 mots seulement, de poser une question indiquée sur la carte, et c'est là en fait que ça prend tout son intérêt. Parce que pour le coup, ce qui peut être très simple à réaliser dans votre tête, pour vous, le sera beaucoup moins en réel. J'en ai fait les frais, je devais faire deviner un extincteur.
D'accord.
Dans ma tête, c'était hyper simple avec la pâte à modeler. J'étais là, je vois comment je vais le faire et tout. C'était hyper parfait, ça nous rapportait pas mal de points en plus si mon équipe, elle trouvait.
Et elle a pas trouvé.
Autant dire que la mise en pratique, ça a été une catastrophe.
Mais comment? C'est facile en pâte à modeler, non?
Non, t'essaieras de nous faire un extincteur en pâte à modeler.
T'as le droit à plusieurs couleurs.
Non, t'en as qu'une, elle est bleue.
Oui,
il n'y a qu'une seule couleur, donc je me suis un peu emballée dans mon truc.
Si, il fallait faire une petite bonbonne, là, voilà.
Ah, mais j'ai tenté, j'ai fait la petite bonbonne, le fil et tout, et j'étais c'est bon, ça marche.
Est-ce que t'as fait un petit triangle que t'as mis sur au-dessus?
Non.
C'est ça.
Non, mais n'empêche que mon échec nous a valu des bons fous rires, et c'est aussi là, du coup, que tu vois que un jeu d'ambiance, il fonctionne réellement quand... t'as autant de bons fous rires autour de la table, même pour des choses que tu échoues complètement.
C'est sûr,
Et c'est vrai que celui-là, il m'a vraiment surprise, parce que tu peux aussi choisir la facilité pour faire deviner. C'est pas le but non plus si tu veux plus de points, mais en même temps, choisir les façons de faire deviner les plus compliquées, ça peut prendre plus de temps, et on n'a que 2 minutes 30 pour faire deviner les 5 mots. Donc c'est quand même hyper rapide. Surtout que pour le coup, les mots qui seront pas trouvés par notre équipe, ils pourront l'être ensuite par les autres équipes enfin par l'autre équipe, et donc ils peuvent récupérer des points qu'on avait tenté d'avoir. Donc ouais, c'est vraiment ultra efficace. Pour le coup, ce que j'ai aimé, c'est justement que tu as plusieurs façons de faire deviner. Tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec tout ce qui est jeu de mime, de chansons ou autre. Et que là, en vrai, ils peuvent juste utiliser la question pour faire deviner une question qui est posée, pour faire deviner un mot sans problème. Donc ça évite les moments où les personnes, elles ne seront pas forcément à l'aise. Et en fait, du coup, ça le rend vraiment... Tu peux vraiment jouer avec tout le monde, en fait, même les personnes qui ne sont pas forcément en jeu comme ça. Enfin, tu vois, un Time's Up, moi, je sais qu'il y a des personnes autour de moi qui n'ont pas du tout envie d'y jouer parce qu'elles ne sont pas à l'aise avec les mimes, avec les choses comme ça. Et ben là, en fait, tu te dis, Creativity, tu as tellement de façons de faire deviner tes mots que du coup, ça prend, parce qu'en fait, tu te dis, la personne, elle n'a pas envie de faire deviner. Tu vois, on en a eu un pendant la partie, il a fait que dessiner.
Ah oui, d'accord.
Coup, il a dessiné. Parce qu'il n'était pas à l'aise, il voulait pas forcément faire les mimes ou autre.
Ouais.
Il a fait que les dessins, ça a rapporté des points quand même. Mais voilà. Mais c'est en fait, c'est vraiment ça que j'ai aimé, quoi. C'est de me dire que il limite pas en fait la façon de faire deviner aux autres, et ça met personne mal à l'aise ou personne qui aurait pas envie de faire l'action. Voilà. Tu sais qu'il y a des solutions, quoi.
Très bien. Donc ça s'appelle Creativity et c'est sorti il y a quelques années, donc en 2014.
Ah, ça a 11 ans, ouais.
Ouais. Chez Yahoo. Mais c'est encore disponible, tu viens de nous le dire.
Oui,
donc,
c'est encore disponible.
Voilà.
Donc ça, il n'y a pas de souci, mais ouais, vraiment une belle surprise, ouais, celui-là.
Très bien. Nous, on a une belle surprise aussi avec notre podcast sur TikTok Top qui cartonne. J'ai envie de te dire,
Marianne.
Mais oui, ça marche super bien. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On va refaire, forcément.
Exactement.
On est obligé. Donc, on va refaire ça. Alors, peut-être lundi ou lundi d'après, on va voir. Mais en tout cas, on va jouer sur Opération Zèbre, qui est pour moi l'un des meilleurs jeux d'ambiance depuis TTMC. Clairement.
Ouais, clairement.
Donc, de culture générale. Je parle d'ambiance, mais je parle de culture générale, de quiz, machin et tout ça. Franchement, top, cette Opération Zèbre. On y a encore joué ce week-end.
Il fait l'unanimité partout.
Et je préfère y jouer en coopératif qu'en compétitif.
Pareil. Ouais. Ouais. Pareil. J'étais en train de préparer en plus ma review sur le blog et je me suis dit, en coopératif, c'est tellement évident que tu le sors avec tout le monde, quoi. Prends tes cartes et tu joues avec tout le monde.
Et puis il y a énormément, de cartes, et en plus, elles sont en recto verso. La boîte est super bien faite, pour ranger et tout, les cartes défaussées. Enfin, bref, nickel.
Je sens les extensions quand même. Avec d'autres thèmes, là, j'espère qu'il y en aura.
Ah oui, peut-être.
Je me dis, vu le succès du jeu, ils n'ont pas fait beaucoup de thèmes, donc ça peut...
Peut-être
un thème. Les extensions.
Peut-être un thème Disney, tiens. D'ailleurs, en parlant de thème Disney...
Il y a des cartes Disney.
J'ai vu... je ne suis pas encore tombé dessus. J'ai vu que tu avais fait un TikTok Top Disney.
Oui.
Avec les méchants de Disney.
Exactement.
Mais alors, est-ce que tu peux nous révéler quel est ton plus méchant de Disney?
Mon plus méchant de Disney, pour moi, c'est Jafar.
Jafar? D'accord.
Ah ouais,
ok. Moi j'aurais mis Scar.
Mais Scar, il est dans ma liste aussi.
Il est dans ta liste aussi.
Il est pas en premier.
Voilà.
Il y avait quand même Jafar, pour moi, c'est vraiment l'incarnation du méchant Disney, quoi.
Donc n'hésitez pas, ils auront jusqu'à quand pour faire leur grille, Morgane?
En fin d'après-midi. Ouais.
Bon, voilà. Donc vous allez sur le compte Instagram de Morgane, ça s'appelle Ina Guicri Jeu. Voilà.
C'est ça.
Super, merci beaucoup Morgane et à très vite.
Avec plaisir, à très vite, bonne semaine.